Il y a deux semaines, lors de la chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, on parlait du gouvernement québécois qui a sanctionné une loi qui modifie les droits matrimoniaux des conjoints de fait avec enfants. Ça entre en vigueur le 30 juin prochain. Puis aujourd'hui, on va aborder les changements apportés en matière de prestations compensatoires et de décès d'un conjoint. Et ça, bien, on en parle avec Catriane Hamel, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Catriane, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Très bien. Et là, allons-y avec les définitions d'entrée de jeu. Là, qu'est-ce que c'est une prestation compensatoire?
Donc, une prestation compensatoire, c'est un montant d'argent versé à titre de compensation. Donc, elle vise à compenser le conjoint qui a contribué par son apport en argent, en biens ou en services, voire en temps peut-être, à enrichir le patrimoine de son ex-conjoint. Donc, on en parle en ce moment dans le cadre de l'union parentale, mais sachez que c'est un principe qui existait avant dans le cadre du mariage.
Mm-hmm.
Donc, on doit faire attention ici que l'apport du conjoint ne doit pas être considéré comme un apport normal. Donc, c'est difficile à quantifier, mais ce sera une question de fait. On doit avoir en tête qu'il y a quatre éléments qui forment la prestation compensatoire, donc un apport en argent, en biens ou en services, un conjoint qui a enrichi son patrimoine, un conjoint qui s'appauvrit, un lien de cause à effet entre l'appauvrissement et l'enrichissement, et ensuite, en fait, aucune autre justification que ce lien-là qui puisse expliquer l'enrichissement de l'autre par rapport à l'appauvrissement de l'autre.
Puis comment est-ce qu'on peut enrichir son conjoint?
Oui, donc en fait, l'enrichissement peut prendre différentes formes. On peut l'illustrer par des exemples. Donc, imaginez le couple de Raphaël et Frédéric, encore une fois. Raphaël est aux études en médecine. Pendant ce temps-là, Frédéric subvient seul aux besoins de la famille. Une fois les études terminées, Frédéric continue d'aider Raphaël en entretenant seul la famille, mais aussi en organisant des soirées bénéfices et des voyages humanitaires bénévolement pour Raphaël. Ça pourrait être également être dans le cas d'un contexte d'entreprise. Donc, Raphaël possède une entreprise et Frédéric, en plus de veiller à l'entretien de la résidence, à l'éducation et aux soins des enfants, travaille gratuitement dans l'entreprise de Raphaël.
Mm-hmm.
Donc, ces deux situations-là pourraient être propices à une prestation compensatoire à la fin de l'union, puisque Frédéric a donné un apport plus que normal pendant que Raphaël a vu son patrimoine s'enrichir et Frédéric s'est appauvri.
Mm-hmm.
Donc, en fait, on remarque que, étant donné que Frédéric n'a pas travaillé et donné, en fait, son temps à la famille, bien, elle a vu son patrimoine s'appauvrir. En termes d'entreprise, soit le deuxième exemple qu'on a dit, c'est possible de demander la prestation compensatoire avant même la fin de l'union, mais seulement dans des situations où la collaboration des conjoints ou des époux prend fin parce que l'entreprise ferme ou est vendue volontairement ou de façon forcée.
Donc ça, c'est un cas à part, c'est autre chose, mais ça existe.
Exactement.
Qu'est-ce que ça amène que la prestation compensatoire soit allouée aux unions parentales?
Donc, en fait, comme on a discuté la dernière fois, présentement, au moment où on se parle, à la rupture, les conjoints de fait avec enfants ont le droit à strictement rien
mm-hmm.
sur ce qui appartient en propre à l'autre, sauf une pension alimentaire pour enfants. Donc, la prestation compensatoire, ce n'est pas une pension alimentaire, mais ça permet quand même au conjoint qui s'est appauvri d'avoir un peu d'argent, d'être compensé au moment que l'union parentale prend fin. Donc, la prestation compensatoire touche vraiment que les conjoints mariés en union civile ou en union parentale, ce qui signifie que les conjoints sans enfants, donc les conjoints de fait, n'ont pas accès à ce recours.
Là, on a parlé d'enrichissement tantôt. Comment est-ce qu'on prouve l'appauvrissement maintenant d'un conjoint?
Comme mentionné, la prestation compensatoire va être basée sur une question de fait. Donc, on va devoir démontrer que par les apports d'un conjoint, il y a eu un appauvrissement d'un côté et l'enrichissement d'un autre. Donc, la preuve, elle, peut être faite par tout moyen.
Cette prestation compensatoire-là, Catriane, elle est payée de quelle façon?
Donc, elle peut être versée en argent, soit d'une seule transaction ou en versement. C'est aussi possible que ce soit l'attribution de certains droits ou de biens, en fait, équivalents à la valeur de la prestation qui va être versée. Donc, par exemple, on va donner la propriété à la place de donner un montant d'argent.
Mm-hmm.
Il faut mentionner que les conjoints peuvent s'entendre pendant l'union de s'acquitter en partie la prestation compensatoire. Donc, cette partie-là qui a déjà été acquittée va être déduite lorsqu'il sera le temps d'établir la prestation compensatoire à la fin de l'union.
Puis, il y a aussi question de changement là, quant aux droits liés à l'héritage des conjoints de fait dans cette réforme-là.
Oui, exactement. Donc, souvent, les gens pensent à tort qu'à leur décès, sans testament, leur bien, leur argent et tout leur patrimoine va aller directement à leur conjoint de fait. Toutefois, les règles de la succession ne sont pas applicables ainsi. Donc, en ce moment, si l'un des conjoints de fait décède sans aucun testament, le conjoint survivant n'est pas un héritier puisqu'il n'est pas uni civilement ou par les liens du mariage. Donc, dans ce cas-là, où est-ce qu'il n'y a aucun lien qui les unit, ce sera les enfants, les parents ou la fratrie du défunt qui vont hériter du patrimoine. Ce que la réforme, elle, va amener, c'est encore une fois pour l'union parentale seulement, le conjoint en union parentale survivant va pouvoir être l'héritier du conjoint qui décède. Donc, pas besoin de prévoir un testament pour désigner la personne qui va hériter si on veut que ce soit notre conjoint en union parentale. Ce conjoint va pouvoir recevoir un tiers de la succession, tandis que les descendants vont en recevoir deux tiers.
Puis est-ce que les changements touchent seulement l'ordre des héritiers du défunt?
Non, on en a parlé un peu la dernière fois qu'il y avait une nouvelle mesure de protection sur la résidence familiale et ses biens. Soit que c'est possible pour le tribunal d'ordonner un conjoint de quitter la résidence le temps des procédures ou encore que la résidence ou ses biens ne peuvent pas être vendus ou détruits sans le consentement de l'autre. Dans le même esprit de la protection, en fait, il est possible d'obtenir la résidence familiale et ses biens à la succession. Donc, le conjoint survivant peut avoir une attribution préférentielle sur la résidence familiale ou le bail, incluant les meubles de la résidence. Donc, le conjoint survivant peut demander la résidence familiale à son nom, donc soit placée dans son lot de succession, malgré les demandes des autres héritiers. Puis, il va quand même devoir tout de même payer la différence si la résidence familiale valait plus que ce qu'il avait droit dans cette succession-là, finalement.
Et Catriane, c'est ce qui complète là, cette deuxième portion là, sur cette loi qui, on le rappelle, entre en vigueur, pas tout de suite, c'est le 30 juin prochain, c'est bien ça?
Exactement. Puis c'est encore une fois pour les conjoints qui vont avoir des enfants à partir du 30 juin 2025. Donc, si vous avez des enfants avant cette date-là, en fait, ça ne va pas nécessairement vous toucher, à moins que vous décidez de vous y soumettre par différents moyens juridiques.
Ben voilà, si on veut plus de détails, on peut aussi aller écouter la chronique d'il y a deux semaines en balado-diffusion sur notre site Internet. Catriane Hamel, qui est étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Un grand merci pour le temps aujourd'hui, puis à bientôt.
Ben merci, à bientôt.